Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission Sortez sur Radio Campus Tours. On est sur le 99.5 FM, toujours sur le site internet radiocampustours.com pour nous écouter aux quatre coins du monde, de la France, même du département, de la région, où vous voulez, sur le site internet et pour retrouver évidemment tous les podcasts de toutes nos belles émissions proposées par les permanents et par les bénévoles de l'association. Une fois que ce beau message est passé, nous allons passer au programme d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 3 mars, on se retrouve pour une émission, comme toute cette semaine, une émission pré-enregistrée qui vous est proposée avec à chaque fois deux contenus. Vous commencez à en avoir l'habitude. Pour commencer, l'Arzac des femmes face à l'armée, l'épisode 2 que je vais vous proposer aujourd'hui intitulé Féminisme et ruralité. Et dans un second temps, eh bien, nous allons partir du côté d'Arte Radio pour retrouver une nouvelle création sonore de Manon Prigent qui s'appelle Tout Foulcan. Et le Tout Foulcan, c'est donc le titre de la série de 4 épisodes que je vous diffuse cette semaine. Et l'épisode 3 d'aujourd'hui s'appelle Ok Boomer. Je pense que c'est assez évocateur, on en parlera tout à l'heure juste avant de le diffuser. Tout de suite, parlons de l'Arzac des femmes face à l'armée. C'est une série de 3 épisodes sur la place et le rôle des femmes dans la lutte contre le camp militaire. C'est produit par Radio Parleur, de beaux reportages de Radio Parleur. On a écouté l'épisode 1 hier qui s'appelait Vivre la lutte et aujourd'hui on écoute l'épisode 2, Féminisme et ruralité. C'est tout de suite sur Radio Campus Tours.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
La situation des femmes était quand même très traditionnelle. Le féminisme n'était pas encore passé par là.
Les femmes à l'époque n'osaient pas prendre la parole.
Et puis, c'est
on leur donnait pas. Surtout.
J'allais te dire, c'est peut-être qu'elles n'osaient. C'est pas qu'elles n'osaient pas, c'est qu'on leur donnait pas le micro.
Il arrive un moment où on se dit, mais j'existe, je peux aussi écouter et donner mon avis, qui est pas forcément le même que celui de mon mari.
Plateau du Larzac, Aveyron, un demi-siècle après une lutte devenue mythique, des femmes racontent. Dans le précédent épisode, Christiane Burguière, Elisabeth Bayon, Solveig et Anne-Marie Le Thor racontaient leur vécu de ces 10 ans face à l'État, face aux militaires. Elles ont évoqué les actions qu'elles ont menées, leur place de femme. Aujourd'hui, elles continuent de raconter leurs souvenirs et reviennent sur le contexte des années 70. L'Arzac, des femmes face à l'armée, épisode 2. Féminisme et ruralité sur le plateau.
En quelques mots, la lutte du Larzac, ça a débuté en 1971. Michel Debré, à la télévision, annonce le projet de l'extension du camp militaire.
Solveig Le Thor.
Un terrain qui est installé sur le centre du Larzac depuis 1902. Et depuis quelques années, il y a des rumeurs d'extension. Et là, en 71, à la télévision, les paysans apprennent qu'ils veulent le passer de 7000 hectares à 3000 hectares à 17000 hectares.
Derrière toutes les critiques que vous avez entendues ou que vous entendrez encore, se cache en réalité, une fois de plus, comme à bien d'autres occasions, cette thèse démentie par les faits, démentie par la raison, comme quoi les Français pourraient être libres, la France pourrait être un pays gardien de la liberté de ses citoyens sans avoir de défense nationale.
Et donc, nous voilà catastrophés, c'est la...
Elisabeth Bayon.
C'est la catastrophe, on vient... Nous, on est artistes, mon mari fait des vitraux, enfin, mon ex-mari, moi, de la tapisserie, on a acheté cette maison pour y faire des expositions, amener du public sur un plan culturel, et voilà que on nous promet, comme seul voisinage, l'armée française.
Ça nous a surpris, bien qu'on savait qu'il y avait des bruits, mais l'apprendre à la télévision, ça aurait été encore la télévision régionale, mais c'était la télévision nationale.
Christiane Burguière.
Et donc c'était Debré a dit, Debré disait, j'ai décidé d'agrandir le camp militaire du Larzac. C'est lui-même qui a annoncé la nouvelle.
Et donc pendant 10 ans, ils vont mener une lutte non violente, mais pas non active. Ils vont avoir l'intelligence d'utiliser plein de supports qui va permettre à plein de gens de venir les soutenir.
On est tout de suite dans le bain. On a l'impression qu'on est fichu d'avance. Le début est un peu tortueux. Il est aveyronnais avant tout. Et puis c'est quand même en 72, avec le jeûne de Lanza del Vasto, que là, une dimension qu'on appelle aujourd'hui médiatique naît. Enfin, on est presque à se dire qu'on a gagné en 72. Bon. On aura aussi ce sentiment-là en 73 avec le Rassemblement. Et donc, le succès est très rapide, quoi. Le paysage plaît, ça emballe les foules.
Il faut savoir qu'à l'époque, en France, on est après 68, donc c'est tous les mouvements féministes, occitanistes, antinucléaires, antimilitaristes, donc ça va devenir une espèce de creusot national, cet endroit-là, ce Larzac, où vont se confronter plein d'idées différentes.
Un creuset.
Le creusot, c'est bien aussi. C'est beau, le creuset, parce que c'est Bobin bon. Qui habite au creusot.
Ah, bah c'est bien, le creusot. Oui.
Mais un creuset où va justement se faire une alchimie de toutes ces oppositions et toutes ces luttes de l'époque.
Moi, je dirais, oui, c'est ça, c'est un combat, on va dire, un combat.
Anne-Marie Le Thor.
Une résistance contre la mainmise d'un. Contre une mainmise injuste, irrespectueuse de la vie, etc. Ils défendent leur vie. Enfin, nous défendions la vie.
Dans son appartement à Millau, Elisabeth Bayon parcourt les livres de sa bibliothèque avant d'attraper une revue. C'est un exemplaire de Sorcière. Vers la fin de la lutte, cette revue féministe fait appel aux femmes du Larzac. Parue de 1975 à 1980, et dirigée par Xavier Gauthier, Sorcière prépare le numéro 20, La nature assassinée.
Eh bien, sur du papier, voilà. Et nous, les femmes, leurs papiers, on les déchire, on les brûle, on les leur renvoie. Quand les hommes ont renvoyé leurs papiers militaires, nous, les femmes, on était un peu vexées. Aussi, les premiers papiers que l'administration a mis à notre portée, ceux de l'enquête parcellaire, c'est-à-dire l'exposition en mairie des cadastres et de toutes les parcelles de terre désirées par l'armée, nous les avons réduits en miettes. Ainsi, depuis 9 ans, leur camp militaire, ça n'était qu'un camp de papier. Sur le Larzac, c'est le pouvoir qui fait des projets irréalisables, qui est velléitaire. Il a beau réaffirmer à la télé, à la radio, dans les journaux, « le camp se fera », le ton n'y est pas. Cette véhémence-là est celle des utopistes. Car notre lutte pour la terre est concrète et quotidienne. C'est pas une lutte claire, disent les uns, le Parti communiste par exemple. C'est une lutte qui vole bas, disent les idéalistes. Oui, c'est peut-être pas une lutte claire, mais c'est une lutte. Elle vole peut-être bas, mais elle vole. D'ailleurs, on ne peut voler haut quand on choisit de s'étaler dans le temps.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce texte ?
D'abord, j'aimais bien écrire. Et puis, c'était de relier féminisme et femmes du Larzac. Ça m'intéressait beaucoup. Les sorcières de Paris voulaient absolument que les femmes du Larzac expriment leur place. Donc, ça enquiquinait beaucoup de femmes sur le plateau à écrire. Elles n'avaient pas trop le temps. Donc, j'ai fait un texte général et puis... j'ai essayé de les stimuler, ça a marché, hein. C'est un texte à plusieurs voix, où les femmes racontent de façon très différente leur position. Il y a des féministes parmi les jeunes, il y a des traditionalistes, il y a des mères de famille, il y a des femmes, femmes de leaders qui vivent la réussite de leur mari comme la par procuration, quoi. Ça c'est très net, et d'autres qui considèrent que les femmes ont été très utiles mais que ça s'est pas trop vu.
Dans les années 70, le MLF, mouvement de libération des femmes, est de plus en plus actif, principalement à Paris. Il est aussi de plus en plus médiatisé. La deuxième vague du féminisme prend de l'ampleur pour le droit de disposer de son corps, pour le droit à l'avortement et pour une remise en cause du système patriarcal. Pourtant, à 650 km de là, dans le milieu rural qu'est le Larzac, les réalités ne sont pas exactement les mêmes et les modes de vie et contraintes parfois radicalement différents.
Mais je vais mettre un peu plus. Mais je pense que la place des femmes, on n'en parlait même pas. Les femmes, elles faisaient leurs tâches quotidiennes, elles se levaient le matin, elles savaient ce qu'elles avaient à faire et... voilà, quoi. C'est quelque chose qui est arrivé après. C'est vrai que la place des femmes a énormément évolué, c'est sûr. Et c'est très bien. C'est très bien, il le fallait. Pour certaines femmes, il le fallait. Mais à la campagne, c'est très différent. Et aujourd'hui, je crois que même sur le Larzac, il y a 8 à 10 femmes qui sont chefs d'exploitation. Une dizaine, quoi, en gros. Et tant mieux, c'est bien. Mais ça n'aurait pas été mon choix, moi.
La situation des femmes était quand même très traditionnelle. Le féminisme n'était pas encore passé par là. C'est-à-dire que les femmes ont aidé les hommes dans des travaux quotidiens pour qu'ils les ont soutenus, pour qu'ils puissent être des leaders reconnus et avec des prises de parole et des actions stratégiques, etc. Dans les années 70, on peut dire que tout est basé sur la complémentarité. Lanza del Vasto, déjà, qui a beaucoup impressionné Larzac et l'a beaucoup influencé, disait « la femme, c'est le cœur, l'homme, c'est le cerveau ». Bon, alors, je caricature un peu, mais c'était ça. J'avais vu un article là-dessus. Donc, chacun dans son rôle. Et donc, quand il s'agissait de faire un discours à une femme, eh bien, c'était la voix du sentiment, la voix, oui, c'était la voix de la mère qui s'élevait. Oui. Parce que les chefs d'exploitation, c'était des hommes, c'est eux qui portaient la direction de l'entreprise et qu'on a affaire. Puis qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de boulot. Puis, je vous dis, l'énergie, on la mettait contre le camp militaire. Il ne fallait pas se diviser.
Et est-ce que peut-être la lutte du Larzac a aussi été un tremplin pour les femmes d'émancipation ?
Bah, je pense qu'il y a eu quelques divorces après. Il y a eu quelques remises en cause dans les foyers, dans les chaumières. Et puis, oui. Mais enfin, on ne peut pas, de toute façon, pendant la lutte, on ne peut pas remettre en question, déjà c'était énorme de se défendre contre l'armée, être légitime et tout, et en plus d'amener la contestation dans son couple, dans son foyer. Donc, et puis, des femmes n'ayant pas une économie autonome, je ne voyais pas comment ça pouvait se faire. Mais enfin, il y a eu des rouspétances de femmes plus jeunes, qui ont trouvé que leur place était minorée et qui témoignent dans ce texte dans Sorcière.
C'est une autre époque. Peut-être aujourd'hui, je réagirais pas pareil. Mais à ce moment-là, j'étais jeune, j'étais heureuse, ça me suffisait. Il n'y avait qu'une gêne, c'était l'extension du camp. Et on se disait, où on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'était ça le souci. Après, la place des femmes... C'était secondaire, en fait. Mais elles étaient toutes présentes, finalement. Mais sans trop se poser des questions, parce qu'on était, en fait, tous dans le même bateau. Et nous, on était les plus jeunes, mais il y avait des gens de 60 ans, quand nous, on en avait 25, et qu'on respectait, qu'on écoutait. On écoutait la parole des anciens, qui ne venaient pas forcément enrichir le débat, parce que les pauvres, dans la campagne, beaucoup, à cette époque-là, n'avaient pas fait d'études, donc pour s'exprimer, c'est difficile. Moi, on fait partie de ces gens-là aussi, avec mon mari. Mon mari a quitté l'école à 14 ans, et moi à 18, pour me marier. Il fallait se marier, on cherchait... Nos parents, c'était un peu insouciant. Ils ne cherchaient pas un métier pour... Et moi, je n'avais pas envie de travailler la terre. J'avais vu ma mère travailler toute sa vie, à se fatiguer, avec les traire les vaches, donner à manger aux porcs, aller au jardin. Et nous, on a travaillé toutes les vacances. Avec ma sœur, c'était mettre les gerbes en croisillon l'été, ramasser des sarments dans les vignes. On était aux portes de Millau, en plus. Et voilà. Je suis sans profession. Et il m'est arrivé, sur des papiers administratifs, d'écrire sans profession, CENT. Et j'étais pas la seule. Ça faisait rire. On était plusieurs, on était gonflés, on était prêtes à faire plein de choses comme ça. Sans profession, c'est NET, parce qu'en fait, on faisait de tout. On faisait de l'accueil, on faisait de la restauration, on faisait du journalisme, n'importe quoi.
En 70-80, c'était encore le rôle de la femme. Il n'y avait pas encore trop de,
Elle était là en soutien, elle était là pour s'occuper des enfants, faire la cuisine.
Donc, le secrétariat.
Secrétariat, et beaucoup, moi, je trouve, dans la communication. Voilà. La communication. C'est vrai qu'elles étaient sur l'accueil, mais elles étaient très actives sur la communication. Les premières journalistes à Gardarem, le Larzac, ce sont des femmes. Qui ont eu besoin, je ne pense pas que des hommes auraient eu ce besoin-là, d'être formées parce qu'elles se sentaient incompétentes alors qu'elles étaient forcément tout à fait autant que les hommes, mais elles ont eu besoin de se former au journalisme, les écritures, pour faire les manifestations, les slogans, etc. Ça a été le rôle des femmes, ça.
Oui. Ce qui ne les empêchait pas d'être dans les actions. Hein. Quand il fallait être aux premières lignes, elles y étaient aussi.
Mais moins voyantes. Elles sont moins devant quand même. Tu as toujours besoin d'avoir les bonhommes devant qui prennent la parole.
Oui.
Quand il faut prendre la parole, c'est toujours les hommes qui sont sur le micro. Voilà. À part Marie-Rose Guiraud qui, à un moment donné, prend la parole et c'est une force extraordinaire.
Oui.
Les femmes, à l'époque, n'osaient pas prendre la parole.
Et puis,
on ne leur donnait pas, surtout.
J'allais te dire, c'est peut-être qu'elles n'osaient pas. C'est pas qu'elles n'osaient pas, c'est qu'on ne leur donnait pas le micro.
Oui, oui. Et elles ne s'en emparaient pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Elles ont le courage d'y aller et de
s'en... Oui, mais il y a 20 ans, hein. Enfin, il y a 40 ans de lutte.
Bien sûr.
Ça fait deux générations presque.
On est dans le milieu rural en plus, donc le rôle de la femme est différent, il est plus au foyer. Elle ne s'autorise pas à prendre la parole, tout simplement aussi. Hein.
Il y a quelques instants, Solveig évoquait Marie-Rose Guiraud, une femme au cœur de la lutte. Son histoire mérite qu'on s'y attarde un peu. Décédée en 2014, à l'âge de 85 ans, elle a vécu toute sa vie sur le Larzac. Face à l'extension du camp militaire, elle est particulièrement active avec son mari Auguste Guiraud, paysan. Marie-Rose habitait à la Blaquière, endroit connu pour la construction d'une bergerie illégale par 3000 militantes et militants. En 1974, lors d'une manifestation, elle attrape le micro et prend la parole.
Elle a une force, enfin, on sent qu'elle est à la fois émue, donc elle s'étrangle un peu dans ses mots, mais elle est portée par quelque chose,
L'argent, vous n'avez que ce mot à la bouche.
L'argent, vous n'avez que ce mot à la bouche, mais qu'est-ce qu'on va faire de votre argent?
Oui.
On sent une vraie révolte qui vient de l'intérieur, et c'est un moment magique, et les gens applaudissent, et elle continue par-dessus les applaudissements, parce qu'elle n'a pas encore, elle ne sait pas le sens qu'il faut savoir, se faire applaudir, Non, elle continue, elle est lancée, elle est toute seule devant son micro, et alors c'est extraordinaire, ce qui se passe à ce moment-là.
Oui.
On sent que, elle sent les choses, et c'est dommage, parce qu'il n'y a que cet exemple-là.
Oui. Combien coûte un paysan? Vous pouvez me le dire?
C'est très très beau, comme elle le dit.
Pour le ministre, pour le préfet, les choses sont si simples. De l'argent, et tout s'arrangera. L'argent, il manque que ce mot à la bouche. Combien ça vaut une famille du Larzac ou d'ailleurs? Je voudrais que quelqu'un me le dise. Ce que nous défendons et que vous défendez avec nous, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la dignité des hommes et la paix. C'est pour cela que nous avons entrepris la construction de la bergerie. Nous ne voulons pas démolir, mais construire. Car construire, c'est la vie.
C'est aussi elle, Marie-Rose Guiraud, qui a subi l'attentat contre sa ferme la nuit du 9 mars 1975. Un événement qui bouleversera, mettra en colère et questionnera la ligne non violente des paysans et paysannes sans pour autant la renverser.
Alors, l'attentat de la Blaquière, ça a été un moment charnière de la lutte du Larzac, parce que jusqu'à présent, les paysans, non violence. Et un soir, il y a une ferme où il y a donc le couple Guiraud avec 7 enfants.
Le berger,
donc ils sont une dizaine dans la maison et elle est plastiquée, voilà. Il y a des pains de plastique qui explosent et la voûte tombe pas loin des enfants, pas loin du berceau du petit dernier, sur le berger. On n'a jamais su qui avait fait cet attentat. Mais là, la violence rentre dedans. Et là, il y a un moment charnière, les paysans se disent comment on fait? On répond violemment ou on continue? Et c'est vraiment un drame pour eux parce qu'il aurait pu y avoir des blessés, des morts. Et je pense qu'il y aurait eu des morts, ça aurait changé complètement la donne. Parce que la non-violence, peut-être qu'elle aurait un peu été difficile à maintenir. Donc là, il y a vraiment... Il se passe quelque chose. Est-ce que ce sont les militaires? Est-ce que ce sont des anti? On ne sait pas. Il y a eu une enquête de fait. Et bien évidemment, non-lieu. Donc un jour, dans les dossiers militaires, peut-être on saura, peut-être on ne saura pas. On n'a jamais su si c'était des gens qui voulaient faire rompre la lutte ou si ce sont les militaires qui ont fait ça. On ne sait pas, mais ça a été un moment très, très, très douloureux pour le Larzac.
Oui, comme tu dis.
Vous vous en souvenez comment, vous, de ce moment-là?
Ben, nous, on n'était pas là. C'était en hiver, je crois. On était en Haute-Mayenne. Et quand on l'a appris, c'est pareil. Il y avait un aspect dramatique parce qu'on se dit, oh, quelle tournure ça prend. Il y en a une de plastiquée, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Enfin, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont s'arrêter à une ferme seulement? Comment les gens... Bon, c'était très, très impressionnant. Très impressionnant.
Au cours de la lutte, de grands rassemblements sont organisés. Le premier en 1973 qui rassemble 60 000 personnes. Puis s'en suivra celui de 1974 et 1977. Des militantes et militants de toute la France rejoignent alors le Larzac. Parmi elles, des militantes féministes. Retour chez Elisabeth Bayon qui explique cette venue.
Oui, on a eu des problèmes avec les féministes qui sont venues et qui étaient toutes déçues de ne pas trouver des femmes, la femme des purports, comme je disais, de ne pas la trouver toujours en tête des manifestations et prenant la parole, enfin, des égéries plus en leader. Oui, oui. Les femmes du Larzac, souvent, ne sont pas du tout senties, comprises par les féministes, qui avaient une idée là-dessus et qui trouvaient que les femmes restaient trop en retrait.
Parce qu'elles venaient d'un milieu différent aussi ?
Ah oui, 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 un milieu urbain. Oui, oui. On avait le même problème avec les Mao, avec tout, qui trouvaient que les paysans n'avaient absolument pas une prise de conscience formidable, ils voulaient que ça pète, ils voulaient, au début. Hein. Et puis après, de toute façon, les paysans, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, ne se sont pas laissés du tout manipuler, hein. Ils sont très pragmatiques. Oui, oui, c'était de même ordre. Nous étions acculés à lutter, et nous sommes devenus militants en faisant des manifs. Mais au départ, nous n'étions pas des militants. Même moi, je m'en serais bien passé parce que, avec mon travail, j'avais suffisamment de choses à faire.
Mais c'est vrai que dans les réunions des 103, où parfois on était 200, et quand il y avait des tours de table, c'était difficile pour moi. Il m'est arrivé d'aller aux toilettes pour ne pas passer mon tour. Parce que j'avais pas. Des fois, on n'a pas forcément son point de vue, parce qu'il y a trop de points de vue. Donc, du coup, on a envie de dire ce qu'un tel a déjà dit. Donc, on s'efface, voilà.
Peut-être qu'on ne vous avait pas appris non plus à prendre la parole comme on l'apprend plus facilement à un homme.
Ben, je pense qu'aujourd'hui, déjà, dans les écoles et les lycées, ils ont, je crois, ce rôle de parler, d'expliquer un texte, ou comme ça, je sais que mes petits-enfants me le disent. Moi, j'ai jamais connu ça. Et puis, dans ma famille, les enfants, surtout les filles, on n'avait rien à dire, parce qu'on parlait beaucoup de la ferme, et donc, nous, les filles, il fallait se taire, il fallait écouter. On écoutait, c'était ça, l'éducation. Donc après, on est dans le silence, et puis un beau jour, ça éclate, et tant mieux. C'est une bonne chose.
Radio Parleur, c'est...
des reportages au cœur de l'actu des luttes.
Des émissions et entretiens.
Bonjour Fatima Wassak.
Pour penser les luttes.
Merci d'être avec nous sur Radio Parleur.
Bonjour.
L'hebdo-parleur.
L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin.
Votre édito satirico-bordélique.
Inventé.
Bagaille.
En fait, de l'enfer.
De la création sonore plein les oreilles. Pour aller
partout,
tout le temps. Nous avons besoin de toi.
Toi.
De toi. Et toi aussi.
Alors faites un don.
Sur radioparleur.net/don.
De retour sur Radio Campus Tour dans votre émission Sortez sur le 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com. On vient d'écouter Larzac des femmes face à l'armée, l'épisode 2 Féminisme et ruralité. J'espère que ça vous a plu. L'épisode 3 sera à retrouver dès demain à l'antenne, l'épisode final de cette série. Tout de suite, on va faire une pause musicale dans cette émission Sortez. On va écouter Jacques. L'artiste s'appelle Jacques et son titre c'est Emerging Mission. Emerging Mission, Jacques sur Radio Campus Tour, de retour sur le 99.5 FM sur internet radiocampustour.com. On se retrouve dans cette émission préenregistrée. Cette semaine, toutes les émissions sont préenregistrées avec du contenu issu de Radio Parleur ainsi que de Arte Radio. Et tout de suite, c'est du côté d'Arte Radio que nous allons nous pencher dans cette émission sortée, car toute la semaine, depuis lundi, je vous diffuse une série qui s'appelle Tout fout le camp. On arrive déjà au troisième épisode. C'est un documentaire de Manon Prigent. Et cet épisode 3 s'appelle OK Boomer. Qu'est-ce qui aujourd'hui façonne le langage des jeunes? Quels sont les mots? Quels sont les usages? Dans ce troisième épisode, 13 jeunes nous prennent par la main pour nous expliquer leur rapport avec ce langage. Leur plaisir et leur déplaisir à manier les mots qui circulent parfois à une vitesse vertigineuse laissent les boomers sur le carreau, et les stratégies à chacun et chacune de se singulariser ou passer incognito. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après.
Tout mot à la mode, tout mot d'argot, tout mot des cités a commencé par être une invention. Et alors on se demande toujours qui invente, par exemple, n'importe quoi. Hein, à l'envers, on va dire n'importe quoi. Ouais. Bon, puis ça sonne pas.
Non, ça sonne pas.
Alors,
donc on n'entend
jamais
un peu plus,
ça. Dans le RER, on ne dit jamais n'importe quoi. On entend n'importe nawak.
N'importe nawak. Alors, pour arriver à n'importe nawak, il y a toute une construction. C'est-à-dire que n'importe quoi, ça donne n'importe wak. On verbalise d'abord le quoi. Puis n'importe, ben, tiens, on va
ça
faire.
Ça fait un hiatus, ça, n'importe wak.
Ah oui, alors, on va faire porte-nain. Alors, porte-nain, wak, ça cloche pas. Alors, on a à ce moment-là une phonie qui va se mettre en place. N'importe nawak. On va faire de l'harmonie vocalique, en quelque sorte. N'importe nawak. Et puis, on en est déjà à porte nawak. Et on va rajouter à nouveau le n'importe pour faire n'importe nawak. C'est-à-dire qu'on reconstruit comme ça. Il y a un jeu sur les mots. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle, dans notre jargon de linguiste, des étymologies populaires qui se mettent en place, mais qui sont tout à fait savoureuses et tout à fait pleines de renseignements sur les phénomènes qui sont en place.
Alors, d'accord. Eh ben alors, Cimer, hein ?
L'Institut National de l'Audiovisuel et les studios d'art et radio sont heureux de vous présenter Tout fout le camp, une série documentaire de Manon Prigent.
Bien connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance.
La façon dont ils parlent, ils ont une prestance.
Comment ça se fait qu'on a perdu cette façon de parler?
Pourquoi a-t-on toujours l'impression que les gens parlaient mieux avant? Qu'y a-t-il derrière cet avant? Et qu'est-ce que les jeunes ont à voir là-dedans? Épisode 3, OK Boomer. Le langage des jeunes fait couler beaucoup d'encre, surtout chez leurs aînés. Nostalgie, déploration ou jeunisme, chacun tente de trouver un chemin parmi ces mots nouveaux qui foisonnent. Impossible à prédire, parfois impossible à comprendre, on a vite fait de se prendre un coup de vieux et de se dire « tout fout le camp ». Qu'est-ce qui aujourd'hui façonne le langage des jeunes? Quels sont les mots nouveaux? Quels usages? Pourquoi? Quand? Comment? Pour ce troisième épisode, et si on demandait aux principaux intéressés de nous expliquer comment ils manient la langue? Donc moi, je m'intéresse à la manière dont les jeunes s'expriment aujourd'hui, comment ils parlent.
Ouh là là. Il y a certains jeunes, ils n'expriment pas, c'est juste avec des gestes. Il y en a. Des gestes pas très sympas.
Des gestes un peu déplacés quand même.
Ouais, voilà.
Oser. Il y en a, ils s'expriment vulgairement.
Ouais.
Ouais, voilà.
Ils insultent. Dès qu'on passe, c'est « Wow, t'as des belles fesses » ou des trucs genre.
Ah ouais, et donc plutôt des garçons.
Quoi. Ouais, voilà.
Et vous trouvez qu'il y a une différence entre la manière dont les filles s'expriment et les garçons?
Ça devient un peu, ça devient pas un peu des garçons quand même, par exemple.
Bah oui.
Ouais, souvent, il y a des mots de l'argot que je comprends pas. Je demande ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Nouvelle expression encore. Ça diffère au fil des années. Les tchépés, les meufs, chaque année, il y a plusieurs expressions à son actif. Les mousseaux.
Les gadgets.
Bon, attendez, vous allez recommencer ça à peu près 10 fois moins vite et en essayant de penser à ce que vous dites.
Il y a des expressions de partout où chaque quartier a sa propre expression.
Il y en a d'autres, mais je n'utilise pas, comme il y a racli. J'aime. Je trouve pas ça beau.
Les mousseaux. Ah, c'est dans ma langue, gros. Mousseau, ça veut dire femme.
Si t'écoutes, Jules. Ben, si t'écoutes ses sons, il dit trop les gadis, c'est un mot de Marseille.
J'ai un vendeur de gadis, ouais, un gros vendeur de gadis. Il aime trop les girls,
c'est un BDG.
Il est évident que l'effet phonétique peut jouer aussi. C'est-à-dire que si un mot sonne mieux, alors par exemple pour un chinois, on peut avoir soit nuashi, soit wanish. Il semblerait que nuash sonne déjà mieux que nuashi, que wanish sonne mieux aussi que nuashi. Donc évidemment, on va vers ce genre de mots. Ouais. Donc il y a toujours un effet un peu de
musical,
jeu.
Oui.
Il y a aussi
il y a la suie. La suie, c'est genre le gars, la suie.
Et ça vient d'où?
Je sais pas, je sais même plus ça vient d'où.
C'est pas pour dire celui-là?
Ouais, voilà, la suie, ouais, celui-là.
Les tipeurs?
Il y a la selle aussi pour les filles.
Les tipeurs, avec un Y. Ça vient de Grigny, ça. C'est un influenceur qui le dit trop.
Il fait rigoler, il s'appelle Léoplay.
Trop marrant, oh là là.
En gros, il fait des Snapchat. Et à Grigny, ils ont leur propre langage en mode.
Tu connais, nous, on comprenait les accents. Tu connais, on a grandi dans ça.
Il dit quoi? Il dit Ziak.
Bon, là, c'est le moment où je dois admettre que je suis largué. Ziak, ça veut dire quoi?
Par exemple, tu me dis un truc, tu vas me dire une punchline et après je vais te dire Ziak en gros.
Maintenant j'écarte, je colle la ligne, on me fait une transversale. Ziak contre de la poitrine.
C'est un onomatopée en gros, c'est ça.
Et la création langagière n'est plus simplement des apax qui sortent comme ça un peu à droite à gauche.
Alors les apax, je rappelle,
oui, c'est, bon,
bien, groupe, c'est quelque chose qui apparaît qu'une seule fois.
Qu'une seule fois ou dans un groupe très limité qui sort pas du groupe dont il est issu ou de la personne.
Apax, c'est très joli mot d'ailleurs, hein, pour le Scrabble.
Ah oui.
Si je parle à une personne, on va dire de la quarantaine, et que je parle comme je parle à mes potes, là, il y a des mots qu'ils ne vont pas comprendre, il y a des phrases qu'ils ne vont pas comprendre. Quand je parle avec mes potes, je ne me dis pas c'est un langage codé ou truc, c'est naturel, hein, franchement. Depuis qu'on est petit, on a toujours parlé de notre manière. Je ne me dis pas ouais, on doit parler comme ça pour que les gens ne nous comprennent pas ou autre. C'est naturel.
Je crois que c'est Winnicott qui disait l'adolescent veut ne pas être compris, enfin, ou quelque chose comme ça. Il y a donc là un jeu.
Un jeu de masque, pourrait-on dire. Ouais. Et la parole sert à dire et sert à masquer. Et si l'on conçoit l'adolescence comme cette période de reconnaissance, il est bien important pour cet adolescent, en cours de son évolution, de ne pas se révéler.
J'ai l'impression qu'il y a une période où il y a un basculement. Et un basculement vers une sorte de création ou d'accomplissement de l'identité de chacun. Alors peut-être que c'est à l'adolescence. Par exemple, quand j'étais petite, j'aimais, alors plus encore que entendre mes parents et essayer de capter leur vocabulaire, c'était des attitudes. Des attitudes d'amis de ma mère, par exemple, avec leurs mains. Et j'essayais de le reproduire, finalement, parce que ça me plaisait. Et j'ai l'impression qu'il y a cette phase de basculement où on en vient à incarner pleinement notre identité. Parce que, justement, moi, c'est ce qui me plaît quand j'échange avec mes amis, c'est de voir à quel point elles sont particulières. Ils sont particuliers, ils ont leur manière de parler, qui sont totalement différentes de la mienne. Et finalement, me retrouver, me voir dans un miroir face à mon ami, ce serait extrêmement perturbant. Et puis aussi, ce serait ennuyeux.
Même selon l'ambiance d'un groupe d'amis ou d'un autre groupe d'amis, je prends archi facilement les expressions des gens. Quand je traîne beaucoup avec une personne, hyper vite, s'il y a des petits mots qu'il dit hyper souvent ou des petites expressions, même intonation ou je sais pas, ça se calque sur moi hyper vite. Tu le fais même pas dans l'ambiance de copier pour t'intégrer. Enfin, moi, en tout cas, je le fais pas dans l'ambiance. C'est juste, c'est naturel, quoi. Parce que t'as envie que ça se comprenne, que vous ayez le même humour, que ça rigole et tout. Donc, je pense que ça se fait naturellement. Et en plus, c'est... Je sais pas, c'est un truc en commun, quoi.
En réalité, l'argot n'est ni un patois, ni une langue. Il a la même syntaxe et la même grammaire que la langue populaire parlée dans la région. Il diffère essentiellement par le vocabulaire, par des créations métaphoriques, plus ou moins imagées, qui s'en nouvellent plus ou moins rapidement, qui ont fait son succès, et aussi par une tendance à la déformation des mots, et enfin, lorsque les argotisants sont à rapport avec des milieux parlant d'autres langues, par des emprunts aux langues étrangères.
Il y a des mots, par exemple, qui viennent de l'arabe, c'est d'étymologie arabe, mais qu'on utilise en français entre copains ou dans le quartier. Si je donne un exemple, si je dis à mon copain dans l'école, je vais lui dire attention, tu vas tomber de ta chaise. Alors qu'avec mes amis, je pourrais dire Belek, attention, tu vas tomber de ta chaise. C'est pas dans le dictionnaire, c'est pas un langage soutenu. Je vois pas quelqu'un qui parle extrêmement bien français utiliser ce mot. Peut-être qu'un jour il l'utilisera, mais pour l'instant non.
Mais il faut se méfier. La Pax d'aujourd'hui peut être le mot de demain, peut être la règle de demain.
Non, il y a des mots qui restent. Ça fait des dizaines d'années qu'ils restent. Il y a d'autres qui viennent. C'est la mode. Ensuite, elle part. Tu vois. J'arrête pas de répéter. Tu vois, il faut que j'arrête. Je sais pas. Je pense à Stave. Non. t'es trop âgé. Ouais.
C'est ta vie.
C'est ta vie. Bah, tout le monde disait ça à une époque. Et puis, ça s'est épuisé. Ça se dit même plus. C'est démodé, entre guillemets. Ça a été ringard. Ça a rien de le dire.
C'est très éphémère, en réalité. Mais même moi, je crois que certains mots... Enfin, je découvre certains mots auprès de mes amis qui sont en vigueur dans le langage adolescent depuis déjà plusieurs mois et moi que j'ignorais totalement.
Des mots qui viennent et qui partent. Il y a un mot comme ça qui vient, qui est connu de moi. Après, tu l'emploies plus. Le fait d'être dans une école, d'être dans un quartier. En fait, il y a plein de mots comme ça qui passent, que tu vas employer. Parfois, il y a même des mots par arrondissement. Par exemple, il y a des mots dans le 12e, ils le disent que nous, on ne dit pas.
Je veux bien qu'il y ait des problèmes d'urbanisme dans Paris, mais ça n'explique pas pourquoi aujourd'hui, des gens disent « Tiens, j'ai écouté une compile d'actu » ou pourquoi ils parlent de « C'est géant, c'est canon, c'est hyper, c'est super ». Enfin, ça doit...
Bah, à l'époque, on disait « C'est sans sas
oui. ».
C'est chouette, c'est chic, c'est des poutrales.
Ben, par exemple, c'est vulgaire un peu. Par exemple, au début de leur phrase, ils disent toujours « bâtard ». Non, mais bâtard, c'est vrai ce que tu dis. Je dis souvent ça. Et même parfois, même moi, naturellement, je commence à le dire quand je parle avec eux. C'est l'effet comme ça, quand tu es dans un groupe où beaucoup de gens ils disent des mots, toi, au final, tu vas le dire. Alors que... Et au final, ces mots-là, si tu ne restes plus avec eux pendant une semaine, tu ne vas plus le dire.
Il y a très peu d'empathie, en fait, dans ce langage. Ça pourrait être perçu vraiment comme de l'agressivité, en fait. C'est-à-dire que si on prend du recul, on se rend compte que bah, déjà, c'est ridicule de se parler comme ça, et d'autant plus que c'est très insultant en général. Et le fait qu'on banalise ça, c'est pas une bonne chose finalement, parce que normalement, quand on interagit avec ses amis, c'est censé être des conversations amicales et qui n'est pas justement d'insultes ou de...
Est-ce que tu penses que tu l'as adopté, ce langage-là ?
Oui, je l'ai totalement adopté. Et en fait, on est tous... on se conforme tous à cette idée, en fait... Vraiment, même dans ma situation, dans mon établissement, donc il y a un milieu plutôt aisé hein, et privilégié, j'en suis conscient. Mais je vois des gens justement qui s'inventent, entre guillemets, une vie qui n'a rien à voir. On peut entendre des expressions qui sont pas françaises ou des choses qu'on retrouverait pas dans un milieu aisé. Donc,
Grappelez-vous, tout fout le camp.
Mais même pour des mots plus simples, si je reprends le cas du flic ou de la femme, flic, flique, que flic, keuf, ça va pas, keuf, que feu, que fuck, puis alors...
Mais là, fuck, ça veut dire autre chose, alors.
Sens, alors là, c'est génial, fuck the fuck.
Parfois, les gens, ils veulent jouer un rôle un peu, ça c'est vrai. Maintenant, il y a le rap qui est beaucoup écouté, et le rap, ils disent des mots vraiment familiers. Parfois, il y en a, ils veulent dire ces mots-là, alors qu'au final, ils n'ont pas à les dire, quoi. Ils veulent juste le faire pour s'identifier à cette personne-là qu'ils écoutent. Tu veux même me demander, mais ça, tu sais ce que ça veut dire? Je crois qu'il va même pas savoir, en fait.
Peu importe où je vais aller, si des jeunes écoutent de la musique, on va dire qu'il y a 9 chances sur 10 pour que ça soit du rap, en fait.
Moi, c'est pratiquement que des rappeuses.
Ouais.
Donc, Nicki, vraiment, c'est la première, quoi. Dollar, dollar bill, come get her. Even your man know Nicki's do it better. Que des bad bitch américaines. Je pense que ça influe même en français dans les punchlines, je sais pas, la manière de débiter, les intonations. En fait, c'est tout, c'est une attitude, c'est ton comportement, quoi. Mais après, je vais paraître obsédé par ça, mais tu sais, même si t'y penses pas tout le temps, c'est tout le temps un peu là. Enfin, je sais pas, c'est tes centres d'intérêt principaux et tout, c'est...
Déjà, avant de chercher chez moi, je vérifie bien que mes écouteurs sont chargés et tout ça.
Et sinon, non. J'aime pas marcher comme ça dehors sans musique. C'est triste, tu fais rien, t'entends rien, tu t'entends les voitures autour. Non, il faut toujours de la musique, toujours, toujours, toujours.
C'est ce que je regarde sur Insta dès que je suis sur mon téléphone ou quoi, donc c'est un truc un peu pas permanent, mais enfin quotidien et tout, donc...
On pense pas au son, nous. Au silence, plutôt. Dans les vidéos YouTube aussi, on voit ça. Tout est coupé, tout le monde parle d'un coup. Il n'y a pas de respiration, rien du tout.
J'espère que vous allez bien, les potes, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée détente, c'est une journée calme, c'est une journée paisible sur le lac de la vie. Aujourd'hui, on va réagir à quelques vidéos satisfaisantes, parce que vous me l'avez beaucoup redemandé. La dernière vidéo, vous avez tout explosé, vous avez explosé les abonnements, vous êtes beaucoup à avoir rejoint la chaîne à ce moment-là, vous avez explosé les pouces bleus.
Effectivement, si vous... Enfin... Si vous êtes devant la télé, etc., un blanc, un moment de vide, ça n'existe pas. Ça n'existe plus, en tout cas. Comme on peut consommer tellement rapidement beaucoup d'informations en peu de temps, 10 secondes de blanc qui correspondraient à une personne qui cherche sa pensée vraiment sans rien dire, ça serait hyper malvenu, finalement. Quoi. Enfin, ou sinon, c'est pour la blague, limite, genre.
Voilà encore des aspects auxquels nous n'avions pas pensé. Merci de l'avoir évoqué.
En tout cas, peut-être qu'il y a 20-30 ans, il fallait... moins être choc, il fallait moins mobiliser très vite beaucoup, beaucoup de monde.
Dans l'évolution et la dégradation actuelle du français, il y a encore bien d'autres choses dont nous allons pouvoir parler.
Comme maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut être super précis, parce que la moindre phrase peut être détournée. Il faut vraiment dire des trucs assez simples pour que les gens comprennent et adhèrent.
Je pense notamment à tout ce qui est de l'ordre du laisser-aller, de la facilité, par exemple, les tics, les mots chevilles. Évidemment, l'emploi des mots chevilles, on le pratique ça énormément à la radio et à la télévision. Et maintenant, et bien, etc. Évidemment, l'emploi de ces mots, ça donne du temps pour réfléchir.
Ouais, ouais, bah, y a wesh, c'est wash en arabe. Mon père, il le dit, par exemple.
Mais de l'astuce occasionnelle au tic enraciné, il n'y a qu'un pas et qui est trop fréquemment franchi.
Si mon père, je vais lui parler, j'ai dit « Wesh, papa, il va pas se dire « Tu me parles comme un jeune », parce que c'est sa langue à lui, en fait.
Et « Wesh, papa », ça veut dire « Ça va, papa ».
Ouais, voilà, c'est ça, « Wesh, papa, ça va ». Quoi de neuf, on va dire. Bon, en français, le « Wesh », on l'utilise de beaucoup de manières. « Wesh », par exemple, c'est une intonation. « Wesh, quoi ?»« Wesh, ça va ?» Il y a, en fait, « Wallah » et « Wesh », c'est les mots les plus utilisés, je pense. En fait, « Wallah », ça, on dirait, ça a lancé ma phrase, tu vois. Comme je t'ai dit, c'est plus qu'une simple manière de jurer, de se faire croire. C'est maintenant, tu l'utilises à tout va. Tu dis voilà, après tu t'insultes quelqu'un, alors que t'as pas le droit d'insulter dans ta religion ou de menacer quelqu'un pour telle et telle raison.
Bah déjà, genre, vas-y, tout ça, bon. Ça, c'est vraiment des espaces, quoi. C'est des virgules, c'est des mots de liaison, il y en a partout.
Et est-ce que tu les écris, par exemple, si tu écris un message ?
Oui, oui, j'écris « bas », j'écris « j'écris tous les petits sons de ma voix qui traduisent, je sais pas, une hésitation ou... j'écris tout.
En fait, quand on n'a pas envie d'écrire, hop, on fait un vocal.
Et pourquoi vous n'avez pas envie d'écrire ?
La flemme. Parce que... Faire des pavés comme ça, enfin, quand on a envie quand on veut écrire deux petites phrases comme ça, c'est bon, on fait. Mais si c'est pour dire un gros pavé comme ça, autant le dire.
Déjà, avec les vocaux, on a pris l'habitude de pouvoir envoyer un message avec exactement ce qu'on veut dire. Donc, à force de switcher, en fait, je pense qu'on uniforme les deux un peu. Souvent, avant, je pense, les textos, c'était pour se passer une information précise et tout. Alors que maintenant, vraiment, tu peux faire une discussion. C'est comme si tu parlais.
Oui, parce que si j'ai bien compris, il s'agit de... privilégier, de préférencier, comme on dit aujourd'hui, l'expression sauvage,
voilà,
le vocabulaire à peu près, dans la mesure où il traduit l'intéressante sensibilité de nos charmants bambins.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Alors, autrement dit, plus on écrit, c'est ça. Hein?
C'est ça, exactement. Bon. C'est vrai, ça. Quand on parle, on préfère que ce soit sincère, que ce soit naturel, que ça vienne vraiment direct et tout. Genre, on se prend pas la tête à faire des phrases bien construites ou quoi, ou... agréable à entendre, enfin... Mais du coup, bah, je pense que c'est plus vrai, enfin...
Et peut-être que la pire chose, par exemple, dans mon lycée, ce serait d'employer un mot qui ne serait pas compris par les autres et de paraître tout à fait à l'écart du groupe, de la masse. Et je vois autour de moi, justement, ces jeunes qui ont tendance à, peut-être par facilité ou par conformisme, là aussi, à utiliser des mots courants et à ne pas s'aventurer au-delà.
Entre amis, ça ne me dérange pas, moi, personnellement. Pour moi, une personne, vraiment, je le dis nettement, une personne est supérieure, vraiment, quand elle sait s'adapter, quand elle sait parler soutenue, quand elle sait parler en langage familier, quand elle sait parler le dialecte, on va dire, t'es trop forte, quoi. Sérieusement.
Pour se construire, chacun, chacune, zigzague entre les mots et les registres. C'est comme un jeu, où c'est à celui qui fera preuve de plus d'adresse, d'aisance ou de malice. Dans le dernier épisode, les jeunes que vous avez entendus s'interrogent. Jusqu'à quel point a-t-on le choix de s'adapter ? Que se passe-t-il quand ce sont les mots qui se jouent de nous ?
À suivre sur arteradio.com.
De retour sur Radio Campus Tours, sur internet radiocampustours.com, en FM 99.5 FM, et on se retrouve après ce reportage d'Arte Radio de Manon Prigent, Tout Fou le Camp, épisode 3, OK Boomer. J'espère que ça vous a plu, que vous ne vous êtes pas reconnu dans certaines choses. On est quand même sur une radio étudiante ici, hein. Attention, j'espère que vous êtes jeune. Bon, ça suffit. Passons à la pause musicale, je m'enfonce, ça devient un petit peu gênant. On est ensemble, c'est pas grave, tout va bien. On va écouter un artiste qui s'appelle Joey Kikas, et son titre s'appelle Gardener. C'est du hip-hop, c'est du rap, on écoute ça tout de suite sur Radio Campus Tours.
If he ever listened to our records and knows anything about rap music, that we are so hardcore b-boy music, and we do not play sucker music.
Making strides, way too much talent to just 9 to 5. Rock keys with ease, overseas what we read. Miss V will indeed cause crowds to stampede. It's like you slip me a roofie, dizzy in my vision when you sing. I go by Baba Louie, Diabla Kong Kong Fooey. Beats made for killers, circle signal sick, create the lip gloss and glitters. All pillars is roller coaster rides, hands up to the sky, enjoy the way we glide. I love doing shows with you and feel the static electricity from what the ticket holder is giving me. Physically and mentally, dance like I'm Kimbo. When I slice my sterile pencil into my lingo, walk down the Singo, charge up the battery to bring those verses right from stepping out my window. Last time I checked, yo, we in this together. Hip hop back on top, let's roll my day like the weather. You say all the time, people say that I'm clever.
Exclamation point, quotation, comma.
Now I'm a loner, even though I hate the front up on ya. Love that we shared that musical corona. Jump up was rocky, but we'll keep it on the DL. Getting myself out of trouble trains my freestyle. I push pens, never worked on my left, so I played right. Just words, ate my type of right bars to excite you all before you write me off. Even though my writer's touch sometimes can write as fuck. Go banana sandwich when I have something that makes me create these beats that's all wavy. Go play me and see that I can twist those necks like an accident in all type of discos. Flip those words into metaphors to school the dudes who don't realize my shit can switch back like Rubik's Cubes. Excuse me, boo, more to me than cockiness. My strength is my weakness. I think you can copy this. Yeah, you say people say that I'm clever. Well, I'm thinking of ways to be way better. Last time I checked, yo, we in this together. Hip hop back on top, controls my day like the weather.
That's crazy, come on, man.
Piece of music to, and then it,
for their music. I think it's extraordinarily lazy.
Gardener, Joe et Kika sur Radio Campus Tour. J'espère que ça vous a plu. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis sur le 99.5 FM ou peut-être même sur internet radiocampustour.com. Aujourd'hui, on a écouté deux choses. On a écouté Larzac, des femmes face à l'armée, un reportage de Radio Parleur. C'était l'épisode 2, féminisme et ruralité. On a aussi écouté Tout fout le camp, issu d'Arte Radio. Si vous voulez le réécouter, n'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur le site d'Arte Radio. Et donc l'épisode 3 qui s'appelait Ok Boomer. J'espère que cette émission vous a plu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est à chaque fois en rediffusion. Donc aujourd'hui on est mercredi, donc le mercredi à 16h et le lendemain en rediffusion le jeudi dès midi de 12h à 13h. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission, c'est-à-dire dès demain, pour une nouvelle émission et puis finalement pour les deux épisodes qui vont nous permettre de conclure ces deux séries qu'on a démarrées tous ensemble lundi. Bonne soirée et à bientôt.
Radio Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.